Quand on regarde la page couverture du livre de Michel Pratt, on est tout de suite happé. C'est une aquarelle du marché Bon Secours au début du 20e siècle.
Mm-hmm.
On voit le dôme, bien sûr, mais c'est surtout la scène en dessous qui est fascinante. C'est un chaos grouillant de vie, des charrettes, des chevaux, des étals qui débordent. On a l'impression d'entendre le brouhaha.
C'est vrai. C'est une image qui nous plonge directement au cœur de l'action.
Et c'est une excellente porte d'entrée pour notre discussion d'aujourd'hui qui s'appuie sur des extraits de son ouvrage « Survol de l'histoire populaire et illustrée de Montréal ».
Exactement. L'idée, c'est pas de faire un cours d'histoire super exhaustif, mais plus de saisir les grands moments, les tournants qui ont vraiment forgé le caractère unique de cette ville.
C'est ça. Notre mission, c'est un peu de retracer cette évolution. On va partir de la géologie, même de l'île, pour se rendre jusqu'au défi de la ville moderne.
Oui.
On veut comprendre comment Montréal est devenue cette métropole francophone en Amérique, une ville définie par sa géographie, ses conflits, son commerce, puis ben, un brassage constant de population.
Alors, la question, c'est par où on commence pour raconter une histoire aussi riche?
Justement.
Ben, on commence par ce qui était là avant tout le monde, le fleuve, le Saint-Laurent.
Bien sûr.
C'est la raison d'être de Montréal, mais pas de la façon qu'on pense. L'élément clé, c'est les rapides de la chaîne. C'est un obstacle naturel infranchissable pour les bateaux de l'époque. Jacques Cartier disait que c'était le plus impétueux qu'il soit possible de voir.
Attends, donc si je comprends bien, la ville n'est pas née d'un endroit super accueillant, mais plutôt d'un cul-de-sac. C'est à cause d'un obstacle que tout le monde a dû s'arrêter là.
Précisément. Cet arrêt forcé a transformé l'île en un lieu de portage obligé, un point de transbordement incontournable. C'est cette contrainte géographique qui a semé les graines du futur grand port. La ville est littéralement née d'un obstacle.
C'est fou! Et bien avant les Européens, d'autres avaient compris le potentiel stratégique de l'endroit. Le livre nous parle des Iroquois du Saint-Laurent et de leur village Hochelaga. Leurs habitations me fascinent. Les maisons longues.
Ah oui!
On parle de structures en écorce d'orme de 6 par 20 mètres, sans fenêtres, qui abritaient jusqu'à 8 familles. Ça devait être toute une vie communautaire.
Tout à fait. C'était une organisation sociale très structurée. Le foyer était central, partagé, avec des ouvertures dans le toit pour la fumée. Puis l'emplacement des villages s'était jamais laissé au hasard.
Ah non!
Non. Ils étaient construits sur des plateaux élevés. Ça donnait un double avantage. Une vue pour surveiller le fleuve et une protection contre les crues.
Mais ce qui est étrange, c'est que lorsque Samuel de Champlain revient en 1611, il n'y a plus rien. Le village d'Hochelaga, ses habitants, tout a disparu. C'est un vrai mystère.
C'est un point qui déroute encore les historiens. La théorie la plus probable, c'est un conflit avec des nations rivales qui les auraient chassés. Mais l'implication est énorme.
Oui.
Ça veut dire que quand les Français arrivent en 1642 pour fonder Ville-Marie, ils trouvent pas une population établie avec qui négocier ou commercer. Ils arrivent sur un territoire qu'ils perçoivent comme vide. Ça a tout changé la dynamique.
Et ce projet de fondation de Ville-Marie en 1642, c'est pas du tout une entreprise commerciale au départ.
Non, pas du tout.
C'est un projet missionnaire, presque utopique, mené par un trio de personnages assez incroyables. D'abord, Paul de Chemédine-Maisonneuve. Le leader militaire, le protecteur, c'est lui qui fait venir la grande recrue de 1653 qui a doublé la population du jour au lendemain.
Et à ses côtés, on a Jeanne Mance, la cofondatrice. Infirmière, elle gère la logistique, la construction du premier hôpital, l'Hôtel-Dieu. Son rôle est fondamental pour la survie physique des colons. C'est l'encre pragmatique du projet.
C'est ça. Sans elle, l'utopie se serait probablement écrasée. Et le trio est complété par Marguerite Bourgeoise. Elle arrive avec la recrue de 1653 et devient la première institutrice de Montréal.
Elle fonde la Congrégation de Notre-Dame.
Exactement. On a donc la défense, la santé et l'éducation. Les trois piliers d'une société. Mais bon, ces piliers servent à rien s'il n'y a personne. La démographie, ça devait être un enjeu majeur.
Un enjeu colossal. La colonie avait un déséquilibre démographique extrême. Beaucoup trop d'hommes, très peu de femmes. Pour régler ça, le roi Louis XIV lance un programme d'État, les Filles du roi.
Ah oui, la fameuse initiative.
Entre 1663 et 1673, la couronne finance le voyage et fournit une dot à près de 800 jeunes femmes. Leur mission était simple, se marier, fonder une famille, peupler la colonie.
C'est une des plus grandes opérations d'ingénierie sociale de l'époque. Problème. la guerre quasi constante avec les nations iroquoises. Ce qui nous amène à un événement qui a l'air tout droit sorti d'un film, la Grande Paix de Montréal en 1701.
Un coup de maître diplomatique du gouverneur de Calière, il réussit à rassembler à Montréal les délégués de toutes les nations autochtones, des Grands Lacs jusqu'à l'Atlantique. Imagine le spectacle, des centaines de canots sur le fleuve.
Wow!
Le point culminant, c'est le discours du chef Huron Wendat, Kondiaronk. Même s'il est malade, il livre un plaidoyer pour la paix tellement puissant qu'il marque tout le monde. Il meurt le lendemain.
Et ce traité-là, ça a-tu vraiment fonctionné?
Oui, du moins pour un temps. Ça a mis fin aux guerres iroquoises pendant presque 60 ans. Et surtout, ça a obtenu la neutralité des nations autochtones dans le conflit qui se préparait entre la France et la Grande-Bretagne.
Une paix locale dans une guerre qui devenait globale.
C'est ça. Ça donnait un répit essentiel à la colonie, mais tout le monde savait que la confrontation des empires était inévitable.
Et elle arrive. En 1760, Montréal capitule. Le traité de Paris de 1763 officialise le tout. J'imagine le choc culturel.
C'est beaucoup plus qu'un changement de drapeau. C'est tout le système de la société qui est renversé. Le système juridique français, le Code civil, est remplacé par la Common Law britannique. L'Église catholique, qui était l'épine dorsale de la société, perd son statut officiel.
Donc, être catholique devient un obstacle?
Exactement, un obstacle à l'avancement. C'est une décapitation sociale. D'ailleurs, une partie de l'élite, 300 à 400 nobles, retourne en France.
Mais la ville continue de grandir sous le régime britannique. Au 19e siècle, il y a une nouvelle vague d'immigration, n'est-ce pas?
Oui, une vague massive. Des Anglais, des Écossais, mais surtout des Irlandais. Des centaines de milliers d'Irlandais catholiques qui fuient la Grande Famine.
Et ils vont jouer un grand rôle?
Un rôle clé. Ils arrivent dans des conditions terribles, mais ils fournissent la main-d'œuvre pour les grands chantiers. Ils s'installent à Griffintown, et c'est en grande partie eux qui vont creuser le canal de la Chine.
Et ce canal, c'est le début de l'âge d'or économique de Montréal.
C'est le catalyseur. Le canal permet enfin de contourner les rapides. Combiné au chemin de fer, ça fait de Montréal la plaque tournante du commerce pour tout le Canada. C'est là que la ville devient une métropole financière, avec la Banque de Montréal, le Golden Square Mile.
Et pendant tout ce temps, l'Église catholique reste hyper influente, d'où le surnom « la ville aux 100 clochers ». Mais au 20e siècle, cette emprise va s'effondrer.
Oui, et avec une rapidité qui est encore étudiée aujourd'hui. C'est la Révolution tranquille des années 60. En moins d'une génération, le Québec se sécularise à toute vitesse. L'État prend le contrôle de l'éducation, de la santé.
Ce qui était la chasse gardée du clergé.
Totalement. L'influence de l'Église, qui avait tout structuré pendant 300 ans, s'évapore. C'est comme si la société changeait son système d'exploitation en 10 ans.
C'est fou! Et pendant que cette évolution se passe à l'interne, Montréal se projette sur la scène mondiale avec deux événements majeurs, coup sur coup.
C'est exactement ça. D'abord, Expo 67. Un moment de fierté, d'ouverture. Pour l'occasion, on inaugure le métro. L'expo laisse des symboles comme Habitat 67, la biosphère. Le monde entier découvre une Montréal moderne et créative.
Et 9 ans plus tard, rebelote avec les Jeux olympiques de 1976. Mais là, l'héritage est un peu plus compliqué.
C'est le moins qu'on puisse dire. Les Olympiques ont aussi laissé une signature forte avec le stade et sa tour. Mais ils ont surtout laissé une dette abyssale qui a pris 30 ans à être remboursée.
C'est un peu les deux facettes du maire Jean Drapeau, là, le visionnaire.
Et le gigantisme aux conséquences douloureuses. Le succès culturel d'un côté et le réveil financier brutal de l'autre.
Cette période d'ouverture est aussi une période de tension politique extrême. La crise d'octobre 1970, avec le FLQ, ça a dû être un traumatisme profond.
Un traumatisme national. Voir l'armée dans les rues de Montréal, les arrestations massives, ça a laissé des cicatrices. Et quelques années après, une autre transformation, cette fois par les urnes. L'élection du Parti québécois en 76, suivie de la loi 101 en 77.
La fameuse charte de la langue française, concrètement, ça a changé quoi?
Ça a tout changé. L'objectif, c'était de faire du français la langue commune dans la sphère publique. Du jour au lendemain, l'affichage commercial devait être majoritairement en français. L'accès à l'école anglaise a été restreint.
Et la réaction?
Pour la majorité francophone, c'était une reconquête. Pour une partie de la communauté anglophone, c'était perçu comme une attaque. Ça a provoqué une vague de départ importante, surtout dans le milieu des affaires. Le visage de Montréal a été redéfini.
C'est incroyable comme le sport à Montréal a souvent servi de baromètre pour ces tensions. Je pense à l'émeute de mars 1955. C'était-tu vraiment juste à cause de la suspension de Maurice Richard?
Ben non, c'est la question clé. Maurice Richard, c'était plus qu'un joueur de hockey. Pour les Canadiens français, c'était un symbole de fierté, de réussite dans un monde dominé par les anglophones.
La LNH.
Exact. Quand le président de la Ligue, l'anglophone Clarence Campbell, le suspend, c'est perçu comme l'injustice de trop. Sa présence au forum ce soir-là, ça a été l'étincelle. L'émeute est un exutoire pour des décennies de frustration. Beaucoup y voient un des premiers soubresauts de la Révolution tranquille.
La ville a donc traversé des crises politiques, mais aussi des catastrophes plus concrètes. La tempête de verglas de 1998, c'est un souvenir marquant pour toute une génération.
Oh oui, le vendredi noir. Le 9 janvier. La ville paralysée, dans le noir, les ponts fermés, l'eau potable menacée, des centaines de milliers de foyers sans électricité dans un froid polaire. C'était une épreuve qui a forcé une solidarité extraordinaire.
Et plus récemment, la pandémie de COVID-19, une autre crise plus silencieuse mais profonde. Avec un lourd bilan humain, elle a aussi transformé le centre-ville avec le télétravail.
C'est vrai. Mais si Montréal a une constante, c'est sa capacité à se réinventer. Et aujourd'hui, une grande partie de son identité passe par sa culture. On ne peut pas parler du Montréal contemporain sans mentionner ses festivals.
Des festivals de jazz, les Franco.
Juste pour rire. Ils ont fait de la ville une capitale culturelle mondiale. C'est un moteur économique, mais c'est surtout un pilier de son identité.
Et pourtant, de grands défis demeurent. L'administration de Valérie Plante, la première mairesse, a mis l'accent sur l'écologie, le verdissement. Mais il y a un problème qui semble de plus en plus pressant.
Oui, et c'est peut-être le plus grand défi pour l'avenir, la crise du logement. La pénurie de logements abordables, c'est devenu un enjeu criant qui met le tissu social à rude épreuve. C'est le nouvel obstacle majeur de la métropole.
En somme, ce survol nous montre une ville en perpétuelle transformation. D'un simple poste de traite né d'un obstacle, elle est devenue une métropole internationale. Son histoire, c'est une suite de conflits, de collaborations, toujours façonnées par son fleuve et par la cohabitation, parfois tendue, entre francophones et anglophones.
Et par l'arrivée continue de nouvelles communautés.
Exactement, qui viennent enrichir sa mosaïque.
Ce que je trouve fascinant dans ce récit, c'est de voir comment chaque époque a eu ses grands bâtisseurs. Au 17e siècle, les fondateurs. Au 19e, les entrepreneurs qui ont creusé des canaux, posé des rails. Au 20e, des visionnaires comme Drapeau.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, face à la crise du logement, à l'urgence climatique, la question reste entière. Quelle sera la prochaine grande vision pour Montréal? Et qui seront les bâtisseurs capables de la porter?